L'émission Venez à Jésus vous est présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Bonjour à tous, je suis Raphaël Mambou, que Jésus vous bénisse, qui que vous soyez, où que vous soyez. Le nom de cette émission est Venez à Jésus. C'est une grâce, c'est un honneur, c'est un privilège de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui autour de la parole de Dieu pour partager quelques versets bibliques sur le thème « La parabole du Samaritain ». Et nous avons toujours Jonathan Junior Mambou. Bonjour frère.
Bonjour et bonjour à vous qui nous suivez présentement.
Merci pour ce temps de disponibilité, ce temps de sacrifice. Merci pour cette richesse par rapport à cette parabole. Que le Seigneur te bénisse, te rende au centuple.
Amen.
Avant d'aller plus loin, je voudrais vous inviter à baisser la tête dans la prière pour dédier le reste des 30 minutes entre les mains du Seigneur. Prions. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous voici devant toi pour entendre ta parole, pour entendre ton message, pour entendre ton amour. Seigneur, qu'est-ce que cette parabole est riche en enseignements. Permets, Seigneur, que ces enseignements profitent à Jonathan, à moi-même et à tous ces millions d'hommes et de femmes qui nous écoutent au travers de ces radios FM, ces radios sur Internet, ces supports informatiques. Bénis ce message, Seigneur, bénis ton messager. Fais-nous encore du bien. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. La parabole du Samaritain. Dans Luc 10, verset 30, Jésus dit « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Jonathan, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à cœur pour nous aujourd'hui par rapport à cette parabole?
La parabole du Samaritain, toujours beaucoup de leçons. Juste une petite récapitulation. Cet homme était à Jérusalem. Jérusalem est l'image de la maison de paix, de la présence du Seigneur. Et il a descendu pour des raisons qui étaient... à lui, de descendre vers Jéricho. Jéricho qui est l'image du monde, l'image du péché. En fait, ça donne l'image de la personne qui était attachée à Christ et qui rétrograde. Et les inconvénients, les conséquences sont vite arrivées. C'est quand, au cours de chemin, il a rencontré des brigands. C'est ce qui arrive à tous ceux qui choisissent de laisser la présence de Dieu pour descendre vers Jéricho. Et là, il se retrouve à demi-mort, et un sacrificateur passe par là, il ne fait rien pour le sauver. Le lévite également passe par là, il ne fait rien également pour le sauver. C'est ce qu'on a abordé dans une des émissions, pour dire que l'attitude de ces deux personnes nous enseigne 2 choses. C'est vrai, un autre enseignant pourrait donner d'autres explications par rapport aux inspirations que Dieu lui mettrait à cœur. Mais pour nous, voilà. Nous avons abordé ces 2 points. D'abord, nous avons vu l'acte de compassion qu'a manifesté le bon Samaritain à l'égard de cet homme. Un acte qui doit nous enseigner de manifester la même compassion, c'est-à-dire le même amour pour sauver les âmes perdues. Et aussi, nous avons tiré la 2e leçon pour dire qu'en fait, puisque nous parlons du bon Samaritain, ce Samaritain qui n'est rien d'autre que l'image de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est lui le bon Samaritain, en fait, il ne pouvait que le faire, parce qu'il est le seul qui pouvait sauver le pécheur. Aucun homme sur terre ne pouvait le faire. Et aucun homme avant Jésus n'a sauvé le pécheur. À l'image des grands hommes comme Abraham, comme Isaac, Jacob. Esaïe. Toutes ces personnes n'ont pas sauvé l'homme. Ils ont enseigné le Samaritain qui est Jésus-Christ. Et Jésus, je voudrais parler du Samaritain ici, Il arrive comme la troisième personne, il est ému de compassion. Et là, ça présente même l'image de Jésus, qui a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Et son Fils venant sur terre, il a été ému de voir les hommes, ceux qui n'ont pas de brebis.
Des brebis qui n'ont pas de berger.
J'ai tourné les choses. C'est-à-dire que le Seigneur voulait être le berger de nos vies. Et aujourd'hui, il est le berger de ceux qui acceptent de le suivre. Donc, ceux qui nous suivent, s'ils veulent également être conduits par le Seigneur, il suffirait simplement de faire des prières d'acceptation, de foi en l'égard de Jésus, et il s'approchera de nos vies. Car il a dit, il est écrit dans la Bible, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Le Samaritain qui passait par là a vu cet homme, il était ému de compassion. Il s'approche de lui, il bande ses plaies en y versant l'huile et du vin. Puis, il le met sur sa monture. C'est ce que Jésus fait aussi. Quand il vient auprès d'un pécheur, il bande ses plaies. Les plaies, nous avions dit que c'est l'image du péché. C'est-à-dire toute personne qui vit dans le mal, dans le péché, il peut être honoré par les hommes. Ça, c'est une bonne chose pour les hommes de la terre. Mais ces honneurs n'auront aucun effet vis-à-vis du ciel. Car pour que nous ayons de la valeur aux yeux de Dieu, nous devons seulement nous conformer à sa parole. Si on ne se conforme pas à sa parole, on peut être honoré sur la terre, cela n'aura aucun effet vis-à-vis de notre Dieu. C'est un élément important. En fait, nous serons à ses yeux comme des malades. Et Jésus-Christ est venu sauver les malades. Voilà pourquoi il pouvait dire dans ce texte que nous avons lu dans les évangiles, où il est dit, je ne suis pas venu pour sauver les justes, mais les pécheurs. Les pécheurs, ce sont ceux-là, les malades. Un malade peut avoir des ulcères, un malade peut avoir des démangeaisons et beaucoup de choses, mais un malade a besoin de médecin. Et le médecin par excellence, c'est Jésus de Nazareth.
Tout à fait.
Voilà pourquoi il est écrit dans les Écritures, « Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. » Guéris de quoi ? Guéris de nos péchés. Guéris de nos désobéissances. Délivrés de nos maux, pour ceux qui étaient impudiques, pour ceux qui étaient voleurs, cupides, enchaînés par divers maux, divers péchés. Seul Jésus-Christ a été capable de délivrer les hommes du mal, du péché. Et quand Jésus vient dans la vie d'un pécheur, la première chose qu'il fait, c'est bander les plaies. C'est-à-dire, ôter le péché. Aucun homme ne pouvait ôter le péché. Il le fait en y versant l'huile et du vin. En fait, les deux choses sont les deux choses que le Seigneur utilise toujours pour sauver un pécheur. C'est-à-dire, quand on voit le vin, on voit le sang de Christ. Je voulais dire, quand on voit le sang de Jésus, en fait, on voit l'élément que le Seigneur utilise pour sauver le pécheur. Mais avant de m'asseoir là-dessus, je voudrais d'abord attirer votre attention, parce que je devais commencer par ça. C'est que le Samaritain, c'était un voyageur. Il était un voyageur, il passait. En fait, j'ai voulu un peu qu'on s'attarde aussi là-dessus, parce qu'en fait, Jésus-Christ, qu'on identifie aux Samaritains, était un étranger, en réalité. Il n'était pas de la terre, il était du ciel. Une leçon très importante pour nous aussi, parce que si nous voulons sauver des pécheurs, nous devons nous considérer comme Christ, des étrangers. Parce que Jésus-Christ s'est considéré comme n'étant pas de ce monde, mais comme étant étranger, comme étant du ciel. Je vois sa prière dans Jean chapitre 17, au verset 11. Jésus est en train de prier. Et il dit ceci, je lis le verset 11. « Je ne suis plus dans le monde. Ils sont dans le monde et je vais à toi. » Je prends le verset 16, qui est encore un peu plus clair. « Ils ne sont pas du monde comme moi. » Je ne suis pas du monde. Jésus ne se considérait pas comme un citoyen de ce monde. Il savait d'où il venait et il connaissait que le ciel avait beaucoup plus de primauté, de valeur,
d'importance
que ce monde perdu. Il savait que ce monde avait besoin de salut et il présentait un monde qui est déjà puissant et qui apporte le salut dans ce monde. En fait, Jésus-Christ, le roi, notre Seigneur, est venu sur la terre pour nous dire qu'en fait, son royaume est le seul royaume qui peut sauver ce monde.
Tout à fait.
Et il n'était pas de ce monde. Si aujourd'hui, sur la terre, il y a des hommes qui se glorifient parce qu'ils sont grands aux yeux des autres dans ce monde, en tout cas, le Seigneur ne nous conseillerait pas de nous glorifier parce qu'on est grand par rapport aux autres, parce qu'on a ceci ou cela. Non. Au contraire, nous devons nous glorifier de le connaître. Nous glorifier d'avoir la grâce d'avoir en nous Jésus-Christ. Il y a même un verset dans Jérémie, si je ne me trompe pas.
J'allais en arriver.
Oui.
Jérémie le dit, que celui qui se glorifie de connaître l'Éternel.
Oui, qui ne se glorifie pas de sa sagesse, ni de sa force. C'est dans Jérémie chapitre 9, au verset 23. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. En fait, quand il est dit dans le verset 24, « Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence. » Cette intelligence ici, c'est seulement la parole de Dieu. Hein? Conformément à beaucoup de textes comme Deutéronome chapitre 4, verset 6. Le verset dit ceci. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux du peuple. » C'est-à-dire notre sagesse et notre intelligence aux yeux du peuple, c'est de mettre en pratique la loi de Dieu. En fait, la loi de Dieu, c'est ça l'intelligence des chrétiens. La sagesse de Dieu, c'est ça l'intelligence des chrétiens. Car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. C'est-à-dire pour que nous passions pour sages aux yeux de Dieu, et d'intelligent aux yeux de Dieu, il suffit simplement de croire à la parole. Alors Dieu dit, en tout cas, tu es sage, tu es intelligent. Mais si tu ne crois pas en la parole, si quelqu'un ne croit pas en la parole, il peut se glorifier devant les hommes, mais pour Dieu, c'est un insensé. Ça, c'est très important. Et Jésus-Christ nous a laissé le même exemple. Il ne s'est pas glorifié d'être passé sur la terre, comme on voit même dans nos télés des personnes qui se glorifient parce qu'ils sont à Paris, parce qu'ils se sont retrouvés aux États-Unis. Et là, ils appellent des pays africains, ils transmettent des images montrant, tu vois, moi je suis à Paris, hein, toi tu es encore en Afrique, hein, nous on est ici, Donc, ils se glorifient d'être dans un milieu, peut-être parce qu'aujourd'hui, on fait des études. On dit, par exemple, que telle ville est la ville la plus propre du monde.
La plus belle.
Voilà. Moi, je suis dans la ville la plus propre du monde. Vous êtes encore dans l'enfer. Ok, c'est bon de se glorifier ici sur terre. Mais écoutez, pour Dieu ne voit pas les choses comme ça. Dieu ne voit pas de choses comme ça. Jésus-Christ n'aurait jamais fait une chose pareille. La preuve, quand Satan lui a présenté le monde, lui demandant de ce
pouvoir et la royauté de ce monde.
Il ne l'a pas fait. Parce que la Bible dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux et Dieu lui regarde les cœurs. Jésus se considérait comme un étranger. Voilà pourquoi il nous a sauvés. Il nous a sauvés. Il n'était pas de ce monde. Jean chapitre 3, verset 13. Voilà pourquoi ce Samaritain devait sauver. Il était un étranger. Nous aussi considérons-nous comme des étrangers pour sauver les autres. Jean chapitre 3, verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà, Jésus-Christ n'était pas de ce monde, il était du ciel, il est descendu du ciel. Et regardez ce qui est controversant dans ce verset, on dit ceci. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Quand Jésus disait ces choses, en fait il parlait du Fils de l'homme qui était lui-même. Mais en parlant, il n'était pas au ciel, il était sur la terre. Il dit le Fils de l'homme qui est pour l'instant dans le ciel. En fait, un peu pour dire, Jésus voulait tout simplement dire que je suis la parole. La parole qui parle. En fait, Dieu parlait. Hein? Dieu était au ciel, mais il parlait, sa parole était sur la terre. En fait, la parole c'est Dieu lui-même, parce que la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ce verset me fait penser à la scène de Exode 19, où Dieu disait aux enfants d'Israël de se préparer, et que le troisième jour il allait descendre. Et pour ceux qui ont lu ce texte, Dieu était descendu, mais après Dieu va dire à Moïse et aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé en étant aux cieux. Mais Dieu était descendu. Alors on pouvait se poser la question, mais finalement, il était descendu quand il parlait. En fait, c'est ça l'omniprésence de notre Dieu. La marche, la vie de Jésus sur la terre, c'était en fait la parole de Dieu qui était en train de parler. Mais Dieu était sur son trône. Que personne ne nous trompe pour dire, non, mais si Dieu, c'est Jésus-Christ est Dieu. Mais c'est que pendant les 33 ans sur terre, le trône du ciel était vide. Non!
Moi, j'ai même entendu une théorie que non, il avait parlé en avance. Tu vois l'histoire de Matthieu 18, quand une voix va se faire entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a une théorie qui dit que Jésus avait parlé en avance et il savait que ce jour-là, à cette époque-là, à cette heure précise, quand lui serait sur la terre, tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui... La voix est venue peu en retard par rapport à certains événements et ça coïncidait au moment de son baptême ou au moment de la conversation où il est avec ses deux disciples en train de voir Moïse et Élie. Non, le ciel n'était pas vide.
Là, c'est lire la Bible comme un journal, c'est comprendre la Bible comme une fable. La Bible, ce n'est pas un journal. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que Dieu vienne sur terre. Au temps d'Abraham.
Il y a eu des théophanies, comme on dit, des apparitions de Dieu.
Et même là, parmi les trois qui étaient là, l'Éternel était là. Il a mangé.
Les trois qui sont venus visiter Abraham.
Ils ont mangé. Et avant de manger, il fallait qu'Abraham prépare. La cuisson ne fait pas une seconde, ça prend du temps. Est-ce qu'on va dire que pendant ce temps-là, le temps que ça a pris, qu'a pris la cuisson...
Donnons-lui 45 minutes.
Donc le trône était vide.
Le ciel était vide.
Donc,
ça les terre. Sur la terre.
Non! Donc, ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Bon, c'était une parenthèse. Mais on a évoqué tout ça pour montrer justement que le Seigneur Jésus n'était pas de ce monde. Il s'est considéré comme étranger sur la terre. Hein? Hébreux chapitre 7, versets 26 à 27, nous présente qu'il fallait un homme comme ça. Un homme qui était étranger pour sauver les hommes. Pour sauver cet homme qui était à demi-mort. Il fallait un homme pareil, qui avait ce profil. Le verset 26, Hébreux 7, 26. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, comme Jésus. Saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Donc Jésus était l'homme qu'il fallait pour sauver l'homme que nous étions. Parce qu'en fait, tous, nous étions à demi-morts. Tous, nous étions morts à cause du péché. Donc il fallait Jésus pour nous ôter le péché, pour faire en sorte que nous soyons agréables à lui. Ça, c'est très important. Et c'est pour cela, quand je vois le parcours du Seigneur sur la terre, son parcours a été parsemé du message du royaume. Quand il est venu au monde, les anges du ciel ont chanté, ils ont apparu aux anges, et je veux dire aux bergers, leur annonçant leur joie de la naissance du roi. En fait, la présence des anges montrait déjà que Jésus n'est pas de ce monde, il est du ciel. C'est dans Luc chapitre 2, verset 8-14. Mais lorsqu'on lit Matthieu 4, 17, au commencement de son ministère, la première chose que Jésus commence à montrer, c'est toujours le royaume des cieux. Il dit clairement là-bas, on dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Ça, c'est pas Jean-Baptiste, c'est Jésus. C'est-à-dire, il commence son message à parler pas d'abord, « Venez à moi, vous aurez de l'argent. Venez à moi, vous aurez des richesses. »«
Venez à moi, vous aurez le mariage,
non,
les enfants.
» Il commence d'abord par « Le royaume des cieux est proche. » Et il le dit à tout le monde, même les malades qui étaient là. Il leur dit « Venez, le royaume des cieux est proche. » C'est-à-dire, il parlait d'un royaume qui était plus excellent, plus grand. Voilà ce qui était important pour lui, parce qu'il n'était pas de ce monde. Il était étranger. Il veut que celui qui veut sauver aussi le demi-mort, parce que dans ce monde, il y a plein de demi-morts.
Tout à fait.
Il faut que les chrétiens qui marchent comme Christ, parce qu'un chrétien, c'est celui qui marche comme Christ, s'identifient à lui, hein, en se considérant comme étrangers et voyageurs sur la terre. Jésus a dû s'aimer cela dans les cœurs de ses disciples. Dans Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne soit pas plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, ce sont des paroles qu'il a sémées.
Tout à fait.
Qui a fait que les apôtres, quand ils marchaient, ils avaient cela à leur esprit. Non, nous ne sommes pas des citoyens de la terre. Nous avons une cité céleste. Les lecteurs peuvent lire les épîtres de Paul. Dans beaucoup de textes, il évoquait toujours le royaume des dieux. Il évoquait toujours le ciel. Il enseignait aussi ses valeurs, disant aux gens, nous sommes étrangers voyageurs sur la terre. Disant aux gens que quand vous êtes à Christ, pensez aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite des dieux. Pourquoi tout ça? Parce que Jésus avait sémé en eux, hein, cette pensée. Jésus n'était pas de ce monde. Voilà pourquoi il était vraiment l'homme qu'il fallait pour sauver les hommes de ce monde. Et il l'a fait pour nous amener dans le ciel. Et la mort, même la condamnation, les souffrances, ne l'ont pas amené à changer d'avis. Regardez même quand il s'est présenté devant Pilate. Il était déjà battu de verge, mais même devant Pilate, il avait toujours à l'esprit qu'il n'était pas de ce monde. Mais cette souffrance était un chemin par lequel il devait passer. On est dans Jean chapitre 19, par exemple. Et je peux vous prendre le Jean chapitre 18. Jésus répondit, on est au verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit, « Es-tu roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela ?» Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi? Pilate répondit, moi je suis juif, ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde. Tu vois, donc, un homme qui pouvait même dire, Pilate vraiment, tu vois, comprends-moi. Mais comme il n'était pas de ce monde, il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Afin que je ne fusse pas livré aux mains des Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? J'aime cette question. Jésus n'a pas répondu. Écoute. Pourquoi? Parce que la vérité, c'était lui-même.
Tout à fait.
Quelle réponse il pouvait encore lui donner? Il l'a laissé. Et c'est la même réponse que Jésus laisse à beaucoup de gens qui sont incrédules aujourd'hui. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est Jésus. Il veut nous sauver parce qu'il est l'étranger qui est venu pour sauver. Il est le Samaritain. Les Samaritains étaient considérés comme des étrangers pour les Israélites. Il fallait un étranger pour nous sauver. Et cet étranger-là, c'était seulement Jésus-Christ. Pourvu que les hommes de la terre les comprennent et qu'ils acceptent de donner leur vie totalement et entièrement à Christ.
Voilà. C'est comme tu viens de dire, Jonathan. Jésus-Christ est la personne habilitée, la personne capable de sauver les hommes, de sauver l'humanité, parce qu'il est lui-même un étranger par rapport à ce monde. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que lorsque quelqu'un est devenu un esclave, seul un homme libre peut racheter un esclave. Moïse n'a pas pu racheter les hommes du péché. Il les a délivrés de l'Égypte. Mais il ne pouvait pas délivrer les hommes du péché parce que lui-même était soumis au péché. Il fallait un homme qui n'a rien à voir avec le péché. C'est ça même le sens de la rédemption. Dans les textes grecs, quand on parle de rédemption, c'est acheter quelqu'un qui était exposé à une vente. Mais ne peut acheter quelqu'un que quelqu'un qui n'est pas prisonnier. Ne peut rendre libre que quelqu'un qui est libre lui-même. Comment est-ce qu'un prisonnier peut rendre quelqu'un d'autre libre? Non. Mon frère, ma sœur, Jésus-Christ, comme l'a dit le frère Jonathan, est la personne habilitée pour sauver. Il est étranger. C'est l'étranger de ce monde par excellence. C'est le Samaritain par excellence. Aujourd'hui, il voyage encore. Amen. Et il vient frapper à votre porte et il dit, est-ce que vous êtes disposé à me recevoir comme Seigneur et Sauveur? Quand il vous voit, il est ému de compassion, il voit un demi-mort. Il veut donner la vie à cette personne. Il veut prendre soin de cette personne. Mais il faut que cette personne, c'est votre prière, baissez la tête et répétez ces simples mots après moi. Père éternel, au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai entendu ta voix, j'ai entendu ton message, j'ai entendu ton appel. Je suis à demi-mort et je demande à Jésus-Christ d'entrer dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de pardonner mes fautes, mes transgressions, ma rébellion. Merci de pardonner mes péchés et de me purifier avec le sang de Jésus-Christ. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Si vous avez fait cette prière, croyez que par la foi, Dieu vous a entendu. Je suis Raphaël Mambou, le nom de cette émission est Venez à Jésus. Nous nous retrouvons la fois prochaine, toujours sur le même thème, la parabole du Samaritain avec Jonathan Junior Mambou. Que Jésus continue de vous bénir, que Jésus continue de vous garder. À la fois prochaine.
À la fois prochaine et que Dieu vous aide à vous considérer comme étranger pour sauver les autres.
Amen.
Amen.
L'émission Venez à Jésus vous a été présentée par les partenaires du ministère Jésus pour tous. Pour nous joindre, appelez-nous au plus 243 819 910 910 ou visitez notre site internet www.jesuspourtous.org.